Est-ce que ça
Oui,
marche? OK.
c'est bon.
Alors maintenant, Zoom tient compte de l'avis des gens, donc vous devez cliquer sur j'ai compris pour accepter. Donc finalement, ce n'est pas tellement mesuré en entreprise. On a voulu avoir, nous, des témoignages, on a cherché, on a un peu exploré et on n'a pas énormément de clients qui ont voulu témoigner, tout simplement parce qu'il n'y a pas de mesure spécifique avant les codev et après les groupes de co-développement des savoir-être. C'est assez difficile à mesurer. Et en plus, les entreprises font souvent plusieurs actions pour développer ça. Et donc, c'est difficile de relier de manière linéaire un résultat à une action. Et donc, quand c'est mesuré de façon plutôt globale. Voilà. Alors, sinon, ça peut être mesuré aussi de façon intuitive. Il y a des gens qui nous ont témoigné, des managers qui nous ont témoigné que oui, ils constatent dans les réunions que les gens sont plus brefs, vont directement au fait, sont plus courageux pour dire ce qu'ils ont à dire. Donc, ça peut être mesuré comme ça, par-ci, par-là, de manière intuitive, que les projets finissent mieux dans les délais, la satisfaction des personnes. Mais il n'y a pas vraiment de grande mesure de ça. Donc, finalement, c'est un espace pour ça, mais pas de lien de cause à effet avec le co-développement. Donc, ça nous va bien, puisque nous, avec Vérane, on est plutôt dans l'approche systémique. Quand même, cette question nous travaille, puisque le retour sur investissement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur pour nos clients. Voilà, donc en fait, ben, on avait envie de s'interroger avec nos deux invités, l'une experte dans la mesure, je vais te laisser Vérane présenter Brigitte tout à l'heure, et puis l'autre qui est donc sur le terrain depuis longtemps, depuis 1998 chez Decathlon. Et on est allé questionner aussi d'autres personnes hein, qui avaient des mesures comme le QE Pro, ou Vérane, toi tu utilises les profils émotionnels de Davidson. Lynn aussi m'avait partagé qu'elle avait construit tout simplement un petit formulaire Google pour pouvoir mesurer chez les participants les résultats. Voilà, mais on en est là et moi je suis curieuse de savoir, Brigitte, ce que tu vas nous partager. Donc, deux invités ce soir. Peggy Massé, qui travaille chez Decathlon depuis 1998, qui a un profil au départ d'ingénieur et qui est passée progressivement du côté lumineux et qui aujourd'hui se retrouve RRH et chef de projet sur le coaching interne chez Decathlon. Donc, merci
Bonsoir.
Peggy d'être là. On va te donner la parole un tout petit peu après. C'est Vérane qui va maintenant prendre la main, nous présenter Brigitte et on va commencer par là. Merci de garder bien vos micros et vos caméras fermées.
Merci Béa. Alors, ravie de présenter Brigitte. Brigitte, tu es co-auteure de 5 ouvrages autour des savoir-être, hein, des soft skills et de l'accompagnement au changement, et notamment auteure de l'ouvrage Funny Learning. T'as vu comme j'ai là. Formée, facilitée avec la neuropédagogie qui est parue chez Duno. T'es fondatrice du Festival d'innovation pédagogique qui intervient chaque année en France à l'étranger. Et j'avoue faire partie des privilégiés qui, chaque année, m'y collent avec toi pour un peu briller le cerveau et avancer. Et cette année, voilà le livre qui a été co-créé à 27 auteurs en même pas 2 mois sur la résilience et l'adaptance. Tu fais aussi des conférences et des formations auprès vraiment d'un large public dans le domaine de la transformation comportementale. Et à ce titre, toi-même, tu proposes des outils dont l'outil Four Colors qui permet d'avoir des profils de personnalité avec un livre managé par les couleurs, où là, il y a la notion de profil naturel, adapté et opposé qui aide justement dans les outils comportementaux. Donc, bienvenue à toi. Et pour débuter, et bien sûr, donc tu as vraiment cette expertise sur l'évolution des savoir-être. Et la première question, puisqu'on est en lien avec le CODEV, que j'ai envie de te poser, c'est que bah, on constate que le CODEV n'est pas dans toutes les entreprises, alors qu'on en connaît tous les effets. Comment tu expliques ça? Et qu'est-ce que toi, tu as pu voir justement? Voilà. Qu'est-ce qui fait que le CODEV n'est pas dans toutes les entreprises?
Alors, effectivement, il est quelquefois dans les grandes entreprises les plus matures, les plus avancées, celles qui, justement, ont un œil sur aussi ce que seront les compétences indispensables pour demain. Donc maintenant, ça commence à se dire, hein, puisque maintenant, on sait, Pôle emploi, par exemple, ça y est, enfin, on commence à dire qu'il vaudrait mieux aller sur de l'appétence que des compétences techniques, parce que c'est plus facile de former à la compétence technique que de former sur la compétence émotionnelle. Donc, par exemple, Pôle emploi, maintenant, a évoqué une statistique que 6 employeurs sur 10, maintenant, allaient recruter en fonction des compétences personnelles et sociales, enfin compétences émotionnelles, soft skills de manière générale. Donc ça y est, ça commence, on commence à voir la lumière sur ce point. Mais en même temps, on a beaucoup de retard parce que mettre en place des pratiques de codev dans les entreprises, ça veut dire que je pense que ça s'appuie en fait sur tout un comment dire, peut-être même une décennie de maturité dans lequel on pense en fait que les gens qui sont en bas dans la hiérarchie souvent ont le pouvoir de réfléchir et de coproduire des solutions ensemble. Donc en fait, on n'est plus dans des directions, des décisions qui doivent se descendre, des décisions qui se partagent, donc à minima à l'horizontale, voire qui remontent et qui produisent des solutions. Donc en fait, c'est bouleversant parce que chacun doit revoir en fait tout le circuit de la décision, comment se prennent les décisions. Et puis aussi, ça veut dire aussi dans ces entreprises qu'on a révisé aussi ce qu'on était aux autres, notre pouvoir aussi. Donc les luttes de pouvoir qui sont en entreprise, ben, faut arriver à travailler là-dessus. Donc, c'est par exemple les entreprises qui ont travaillé il y a. Alors, moi, je suis une ancienne de Xerox, j'ai travaillé quelques années chez Xerox. Toutes les entreprises qui sont passées par la qualité, le développement de la qualité et l'empowerment ont eu un petit peu d'avance là-dessus, parce que l'empowerment, c'est de donner justement le pouvoir à l'autre. Et ça s'appuie sur cette maturité.
OK. Et justement, il y avait pourtant dans les entreprises, on parle beaucoup de bien-être au travail. Donc, quel lien tu fais? Parce qu'il y a cette vraie volonté dont on entend absolument partout de bien-être au travail, d'évolution. Et puis pour autant, comme tu l'as décrit, il y a beaucoup de choses qui sont bouleversées de façon profonde. Qu'est-ce que tu as envie d'en dire?
Pour moi, le lien, il est direct. C'est-à-dire que si je me trouve en train de travailler dans un environnement dans lequel on sait reconnaître ma singularité et on sait aussi comment exprimer ses besoins et puis réguler quand il y a quelque chose à dire. Donc ça s'apprend, c'est difficile, il y a tout un processus. Dans la mesure où on vit dans cet environnement qui devient bienveillant de cette manière, bien évidemment, travailler devient un vrai plaisir. Hein, voilà. Et il y a des gens qui le. Enfin, moi, je l'ai expérimenté, je disais à Peggy tout à l'heure en off, j'avais deux expériences en même temps. On devait produire deux événements, l'un au sein d'un établissement privé pour réunir 160 professeurs pour travailler ensemble autour d'un écosystème apprenant pour les enfants. Et puis de l'autre côté, ben, il y avait chez Decathlon, ils devaient repositionner une marque, Aptonia. Donc, il fallait réunir 700 personnes en 5 jours en Espagne. J'ai passé une journée en facilitation chez Decathlon. Le truc était pondu, pas de lutte de pouvoir. Le truc était merveilleux, d'une fluidité. Parce que justement, chacun produisait sans vouloir imposer un territoire. Et puis, bon, je ne vous raconte pas de l'autre côté, avec mes professeurs, j'en ai beaucoup bavé, parce que 4 mois plus tard, on était toujours dans des luttes de territoire à ne pas réussir à produire cette fameuse journée. Donc voilà, beaucoup de souffrance d'un côté, beaucoup de plaisir de l'autre.
OK. Alors justement, ce poids de la culture, comment t'expliques un petit peu sa chronologie? On en est où aujourd'hui? Toi qui es beaucoup dans la pédagogie, justement.
Alors, j'ai l'impression quand même que l'affaire, elle remonte de loin. Quand on voit la compétition dans laquelle on est poussé, alors spécifiquement en France, quand on regarde par exemple le système danois, système suédois, etc., tout est compétition. Les examens sont compétition. On sait d'ailleurs, on regarde, pour revenir à la relation du bien-être, il y a une des consultantes de notre réseau là, qui travaille à l'heure actuelle avec les universités, dont la fac de médecine. Et en fait, les ministres tirent des sonnettes d'alarme sur le taux de mal-être des étudiants, sur les taux de suicide aussi. C'est-à-dire, non seulement les enseignements sont cloisonnés. Donc, c'est quand même ennuyeux, par exemple, en fac de médecine, qu'on cloisonne une discipline, je sais pas, de gastro-entérologie et l'autre de, je sais pas, de traumatologie, par exemple. Et donc, en fait, un, les enseignements sont cloisonnés et deux, les étudiants sont opposés les uns aux autres, puisque c'est un concours. Donc, en fait, ça génère du mal-être. Et ça génère du stress, et on le sait, ça démarre depuis l'école. Et depuis l'école, bah, et même les parents ont du mal aussi. Dès qu'on propose de mettre des notes globales sur un projet qui va être mené en groupe, les parents s'offusquent parce que la note va être une note moyenne qui tient compte justement des moins bons de l'équipe. Voilà. Donc, on n'est pas dans cette culture, on vient de loin et je pense que la manière dont on a été élevé à l'école y fait beaucoup, malheureusement.
Ok, ouais. Et alors, d'où l'importance des émotions dans tout ça. Alors, justement, quelles sont les perspectives pour toi pour justement, en fait, tout le monde n'est pas prêt pour le CODEV. Tu as parlé de maturité tout à l'heure, tu as parlé d'appétence. Qu'est-ce qui serait à mettre en place dans une entreprise qui voudrait aller là-dedans? Parce qu'il y a des vrais besoins. Et du coup, comment faire en fait? C'est quoi pour toi un peu le parcours que tu verrais, les recommandations que tu donnerais?
Alors, je crois que toutes les entreprises sont différentes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu parlais de mesures du CODEV. Nous, on est juste à l'observatoire de dire, bah, quand on laisse les gens trouver ensemble des solutions, c'est eux qui savent. Moi, j'ai eu cette expérience chez Veolia. On est sur tout ce qui est environnemental, etc. Moi, j'y connais rien là-dedans. Par contre, quand ils sont ensemble à trouver leurs solutions, ils les trouvent. Donc, en fait, on pourrait dire que démarrer de petits projets où on dit on a X problématiques à adresser et on regarde la vie de cette problématique et comment, à la fin, ça crée une solution. Ben, quand il y a un micro-projet qui démarre comme ça et que ça marche, je crois que ça peut donner envie de le diffuser de manière plus large en entreprise. Ouais. Donc, je serais dans l'idée de démarrer par… Alors, il y a des gens qui sont convaincus aussi, ce sont des bons ambassadeurs pour démarrer. Donc, démarrer par les projets, démarrer par les personnes porteuses de ces projets, par ceux qui sont aussi certifiés sur le CODEV, par exemple. Okay. Voilà, des bonnes solutions qui permettent de démarrer concrètement. Moi, je crois que, comme ça marche, je crois qu'il n'y a rien de mieux que de regarder quelque chose qui ne marche et puis de dire, bah oui, et si on faisait pour d'autres services, par exemple.
Là, tout à fait. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a un côté culturel, c'est parce qu'en fait, dans un CODEV, on ose demander de l'aide, on ose s'appuyer sur les autres, et alors que souvent, j'ai été formatée, conditionnée pour m'en sortir tout seul, cette fameuse compétition. Qu'est-ce que tu as pu observer, toi, dans ton expérience, la notion éducation-compétition qui est un peu le cercle dramatique, et puis ben, le fait, comment est-ce qu'on peut passer le relais, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'intelligence collective?
Alors, c'est vrai que là, tu évoques un point sur lequel il faudrait revenir, c'est qu'en fait, on voit bien les entretiens annuels de performance qui sont déroulés, on essaye de mettre des couvertures sur les problèmes. Enfin, souvent, les gens ont tellement peur, comment dire, d'être notés comme des gens qui ne savent pas, que les problèmes, en fait, sont cachés. On met des couvertures dessus et puis, surtout, on essaye de ne pas les dévoiler. Or, en fait, le principe du CODEV, c'est j'ai un micro-problème, voire même j'ai pas de problème, j'ai une envie de faire mieux. Et je vais la partager. Et ça, nous, on travaille sur des petites capsules. Alors le terme vient justement de nos amis Québec. Là, je ne sais pas s'il y a des amis québécois.
Oui, il y a Claude.
Donc, une petite séquence pédagogique qui permet aux gens de comprendre des choses. On a une des capsules qui consiste à créer un obstacle dans une salle de formation avec tout ce qu'on a qui nous tombe sur la main, et on demande aux participants de venir nous rejoindre en passant l'obstacle, en trouvant des solutions originales qui n'auront jamais été faites par d'autres personnes. Et on les voit passer, donc quelquefois quand ils sont 15, on doit trouver 15 solutions. Puis après, nous, on va de l'autre côté, puis on leur dit, je pense que vous pouvez encore trouver d'autres solutions. Alors là, ils se grattent la tête pour trouver au fur et à mesure des solutions de plus en plus originales. Et en fait, il y en a toujours deux qui sortent, les deux dernières, et encore, c'est vraiment parce qu'on les aide à l'accouchement. C'est celle de faire ensemble.
Ouais.
Voilà. Faire ensemble, et l'autre, c'est demander de l'aide. Est-ce que tu peux me déplacer cette chaise? Voilà. Et c'est les deux, comme a fait exprès, dont on a besoin pour construire le CODEP.
Bien sûr. Mmh.
Super.
Bien sûr. Une dernière chose sur la notion de plaisir. Parce que là, c'est quasi un gros mot, hein, parce que avoir du plaisir, la notion d'appétence, quel lien tu pourrais faire justement avec le CODEV, la notion de plaisir, d'effort, comment tu auras envie de dire quoi? Bon, enfin, alors, le lien après pour l'évaluation.
C'est bien, le plaisir, c'est un gros mot dans les entreprises. On est là pour faire des choses sérieuses, hein, pas pour s'amuser. Et pourtant, la dopamine régit notre monde en permanence, hein, puisque le principe, c'est le cerveau nous guide vers ce qui nous apporte du plaisir et on fuit ce qui nous apporte de la douleur. Voilà. Donc, par exemple, quand mon manager me critique, quelque part, c'est de la douleur. Donc, du coup, c'est là où je vais cacher mes problèmes parce que je ne préfère pas vivre ça. Donc, la dopamine, elle est essentielle. Le plaisir est essentiel. Moi, ce que je pense, c'est que le plaisir qu'on peut dégager à travailler avec quelqu'un dans une notion justement de CODEV, c'est que finalement, on se rend compte que apporter, permettre à l'autre qu'il trouve sa solution, permettre un éclairage ensemble, c'est co-construire, faire des choses ensemble, c'est nos neurones miroirs, c'est plein de bonheur, voilà. Être utile aux autres, ça apporte aussi du bonheur. On sert à quoi si on n'est pas utile aux autres? Donc, je pense que ces notions, et après, voir le résultat d'un truc qui marche, qui a été co-produit, retrouver...
C'est plein de plaisir,
tout ça, c'est que du bonheur, voilà. Okay. Donc voilà.
Ouais. Alors justement, et pour faire le lien justement avec Peggy, et une dernière question pour toi très courte, en termes d'évaluation, je me permets de partager ce que tu avais dit quand on a préparé ça, c'était le fait que on est rassuré par des compétences techniques, et là on fera le clin d'œil d'ingénieur à Peggy, alors que le côté un peu plus rond, un peu plus fluide, hein, le fameux monde du vivant. On a un peu plus de mal avec ça. C'est ça, hein, la notion d'évaluation, parce que pourquoi c'est si difficile d'évaluer?
Oui, on veut toujours évaluer. Tu vois, là, par exemple, on parlait de plaisir. Est-ce que ça ne nous suffirait pas quand on dit il y a du plaisir ça marche? Est-ce que ça ne suffirait pas? Mais on est dans une entreprise, on est dans une société qui veut absolument tout évaluer. Voilà, donc on évalue l'évaluation, on évalue absolument tout. Donc, faut-il évaluer? Simplement, moi, je peux témoigner, parce que le problème, c'est évaluer, il faudrait faire un diagnostic avant, avec poser des balises, et un après. Donc, ça prendrait aussi beaucoup de temps, et ça demanderait aussi de s'interroger, d'abord, c'est quoi les compétences comportementales dont on a besoin? Voilà, déjà, donc il y a bien des outils d'évaluation. Hein. Nous, on a des diagnostics, par exemple, de zone d'inconfort, des choses comme ça. Mais ce qu'on peut regarder, c'est des résultats obtenus. Par exemple, sur les compétences comportementales, quand on a formé, nous, on avait travaillé avec une entreprise qui travaille sur du volume en réception d'appels sur des problématiques. Donc, on peut la citer, hein, c'est Sedge, donc ils aident les gens au téléphone, donc des milliers d'appels. Okay. Quand on forme les gens aux compétences comportementales, eh bien, le Net Promoter Score, que vous connaissez peut-être, c'est l'indicateur de satisfaction du client, il monte d'un point et demi sur 10 après des formations aux compétences comportementales. Okay. Voilà.
On s'arrêtera là. Super. Merci. Merci Brigitte. Du coup, Léa.
Merci Brigitte, merci beaucoup. Ça fait bien le lien finalement avec ce que Peggy va nous partager. Peggy, ça fait quand même 20 ans hein, chez vous que cette histoire-là, elle est très active. Est-ce que tu nous entends bien, Peggy?
Oui, tout à fait.
Oui, ah, ça oui. va. OK, très bien.
Je t'entends bien.
Bon, donc bon, peut-être nous dire un peu comment c'est né chez Decathlon, puisque ça fait pratiquement 20 ans que c'est évalué, cette histoire des savoir-être. Et c'est arrivé un peu presque par hasard, si je me souviens bien.
Oui, bah en fait, le début de cette notion, alors à Decathlon, on a toujours été beaucoup aussi dans l'évaluation. Et en fait, l'évaluation des savoir-être, en tout cas l'apparition de... On s'est dit qu'on avait vraiment besoin de travailler sur ce sujet-là, c'était en 2002. Et en fait, c'est venu d'un sondage qu'on a fait. En fait, on a interviewé 150 managers de l'époque en leur demandant, mais en fait, finalement, à ton avis, qu'est-ce qui fait que ton équipe est plus performante travaille bien ensemble, en fait. Qu'est-ce qui fait que ton équipe fonctionne? Et puis, en fait, bah, du coup, se sont dégagés 12 savoir-être, du coup, 12 aptitudes ou 12 comportements qu'on pouvait observer qui, en fait, faisaient vraiment la différence. Et c'était vraiment autour des comportements et des savoir-être.
OK, merci. Alors,
par exemple...
Vas-y.
Vas-y.
Oui, il y a un petit décalage entre l'image et le son, donc c'est pour ça que je ne savais pas où
D'accord.
Si voilà. Donc, okay. Vas-y pour donner des exemples.
Je peux en citer quelques-uns. Voilà. Du coup, il y avait un savoir-être autour de savoir fédérer et dynamiser une équipe, le sens du service, la créativité concrète, donc voilà, la capacité de la conduite au changement, la capacité à gérer des situations et de dans un contexte de changement, autour de la communication et pas autour de la compétence de communiquer, mais vraiment son aptitude et le comportement autour de la communication. Donc plutôt est-ce que je suis est-ce que je j'affirme mes idées, est-ce que je suis convaincant dans ma communication, etc. Donc c'était pas forcément sur des compétences de savoir-faire, hein. On s'adaptait vraiment, enfin on parlait vraiment des comportements.
Voilà. OK, c'est super parce que ça fait le lien avec un petit peu ce qu'on avait échangé ensemble en se préparant, d'en fédérer, d'en communiquer. On parlait d'impact aussi. Il y a quand même quelque chose en termes d'énergie qui est assez masculin, qui est autour de quand même produire un résultat. Et je crois que depuis le co-développement chez vous, cette liste des 12 savoir-être, elle est en évolution justement.
Oui, tout à fait. En fait, quand justement on a préparé, hein, je repartais des 12 savoir-être. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que finalement, oui, on a envie de faire évoluer parce que le monde évolue. Et vraiment, les savoir-être, en fait, on n'a plus besoin exactement des mêmes aptitudes et des mêmes comportements pour avoir du plaisir et du coup de la performance dans l'entreprise, dans le monde actuel. Ça, c'est une évidence. Et donc, et ça, on en a vraiment pris conscience en 2012. On a commencé en fait à mettre en place des formations autour de manager coach pour développer l'écoute. Questionnement et en 2004 en plus justement la capacité à se faire aider, etc. On sait qu'on doit faire évoluer ses savoir-être et donc là, il y a un nouveau projet. Quand je compare là qui vont vraiment émerger et qui vont commencer à être évalués l'année prochaine, on a fait tout un travail collaboratif pour pouvoir les définir, pour accompagner les enjeux de demain par des savoir-être et des compétences humaines. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que les mots peuvent éventuellement changer, mais c'est surtout l'énergie qui change. Je te donnais l'exemple, par exemple, de la communication. Avant, en fait, on l'avait retrouvé, j'affirme mes convictions et je les porte haut et fort, jusqu'à vraiment, en fait, globalement, hein, de toute façon, je dois avoir raison et moi, en tant que leader ou en tant que manager, je dois m'imposer. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur des termes d'empathie, d'écoute, de questionnement. Et ben oui, je dois savoir communiquer, mais je dois plutôt savoir être en relation avec l'autre pour pouvoir ensuite apporter la juste solution. Et la juste solution, c'est pas forcément de donner mon opinion. Ça peut être aussi d'être juste dans le soutien, dans l'humilité. On est beaucoup plus dans des postures en fait d'égal à égal. Et là, bah, c'est clair que le co-développement nous aide énormément. Et je rejoins, mais je suis totalement alignée avec ce que disait Brigitte. Moi, l'élément, je pense, le plus marquant avec le co-développement, c'est passer d'un soi fort à je me fais aider. À Decathlon, on a une conscience du sens du service. D'ailleurs, en recrutement, on recrute des personnalités depuis toujours. Et dans les quatre personnalités, quatre éléments de personnalité, il y a le sens du service. Donc ça, on s'est donné, en fait. Dans nos valeurs, il y a la générosité. On aime donner, on aime aider. Par contre, demander de l'aide et montrer un peu de vulnérabilité et de dire, ah, mais attends, là, tiens, ça me ferait du bien. D'avoir des conseils, ça c'est tout un autre programme. Et là, on commence vraiment à avoir les résultats, notamment grâce au co-développement, au coaching, etc.
Et alors, dernière petite question avant d'ouvrir la parole aux questions. Vous pouvez commencer à mettre vos questions dans le chat et puis on ouvrira les caméras après. À quel moment sont mesurés ces savoir-être? Est-ce que c'est pour certains publics? Comment ça se passe chez vous pour
Alors,
ça?
c'est vraiment pour tout le monde. Donc là, c'est les 100 000 coéquipiers qui sont concernés. Là, les nouveaux savoir-être, en plus, ils vont vraiment être traduits dans toutes les langues et donnés enfin, aux 60 pays. Et ça a toujours existé, en fait, et c'est évalué en fin d'année. Alors, le système d'évaluation, il a évolué. On a toujours été sur plutôt, d'abord, on prépare son entretien et on essaie de le faire pour soi. Donc, on est dans de l'auto-évaluation. Et moi, je me souviens encore de ma première auto-évaluation sur mes savoir-être. Et
Donc, il y a
l'émotion que
20 ans, il y a 20 ans,
ça
c'est
m'avait
ça?
généré. Ouais, je t'assure. Parce que, en fait, comme je n'étais pas du tout dans cet univers, tu m'as dit que, enfin, tu vois, tu t'as expliqué que j'étais dans l'ingénierie. Et ben, en fait, je n'avais pas du tout voilà, travaillé sur moi, enfin, voilà, le développement personnel. Et du coup, quand j'ai eu ces savoir-être à aller regarder et bah, à me poser des questions en fait et moi en fait c'est quoi mes qualités majeures, mes comportements majeurs, lesquels j'aurais vraiment besoin de développer ou pas en fait, parce qu'on n'a pas besoin non plus d'être tous pareils hein. Et ben vraiment ça a été une vraie source de développement mais immédiate en fait, rien que de me poser la question et de définir. Voilà, donc on est plutôt sur de l'auto-évaluation, et puis ensuite on a un regard extérieur par le manager qui va dire, bah oui, mais moi j'ai observé, on se base aussi sur des situations observables hein, pour essayer d'être le plus factuel possible, et puis ensuite pouvoir y mettre des formes de développement, bah, par exemple, voilà, le co-développement, pour pouvoir les développer, parce que c'est pas le tout de les évaluer. C'est bien, pas bien, ok, mais comment je fais pour les développer? Et est-ce que j'ai besoin de les développer par rapport à la mission que j'ai aujourd'hui? Et c'est ça aussi qui est intéressant en fait de se poser. C'est pas bien, pas bien en fait. L'idée, c'est pas forcément d'évaluer tous les savoir-être, mais d'aller chercher les savoir-être qui nous font soit défaut, soit qui vont faire la différence pour pouvoir bah, voilà, partager quand ou pouvoir aider et être dans le collaboratif par exemple, etc.
Ok, bah c'est vraiment passionnant. On pourrait y passer encore plus de temps à t'écouter, finalement à savoir aussi si ça peut se faire en équipe, etc. Bon, en tout cas, j'aurais vraiment beaucoup de questions, mais je crois que c'est venu le moment, Véran,
Oui, tout à fait, tout à
d'ouvrir la
fait.
parole et le chat à tout le monde. Si vous avez envie d'ouvrir vos vidéos, il n'y a pas de questions dans le chat encore, mais
Non, moi
peut-être que
j'en
c'est
ai
toi
une.
qui les a reçues, Véran, depuis
Non.
parce que c'était l'animation, non?
Non,
T'en as une?
non.
Bah vas-y.
Voilà.
Si vous voulez mettre vos questions hein, dans le chat, allez-y. Hein.
Je veux bien poser une question à Peggy, du
Ouais, et
coup.
bah,
Ouais.
vas-y, Brigitte. Vas-y, Brigitte.
Parce que
Laissez vos micros quand même coupés, s'il vous plaît, hein, pour
voilà,
qu'on préserve la qualité de l'enregistrement.
le temps que les questions dans le chat arrivent,
Oui.
Peggy, tu évoquais, là, on parlait de maturité, de culture, etc. Et puis tu as parlé de 60 pays dans lesquels vous alliez diffuser, donc les mêmes compétences. Après, est-ce que j'en ai besoin dans mon poste ou pas, dans ma mission? Et donc ma question, c'est est-ce que vous avez remarqué, parce que j'ai un souvenir, moi, d'avoir fait un manager coach en Russie il y a quelques années pour L'Oréal. Et on arrivait, on devait sortir les rames parce que les managers disaient, mais attends, je comprends même pas le concept, je vois pas, s'il veut pas faire et s'il a pas envie de faire, moi je le vire et puis voilà. Est-ce que vous rencontrez vous aussi cet écart culturel quand vous arrivez avec ces mêmes compétences pour essayer d'aligner justement à Decathlon?
Alors, pas vraiment. Oui, il y a des différences, c'est sûr, il y a des différences, mais sur les savoir-être qu'on définit, ils sont tellement. Justement, ils sont tout sauf neutres, mais l'écoute, je ne suis pas sûre qu'en fait, il y ait un pays où il y ait une culture qui soit moins dans l'écoute qu'une autre. Il y a certaines, en fait, alors il y a deux façons de répondre. Oui, je pense quand même qu'il y a des différences et donc peut-être qu'il y a des savoir-être qui sont plus faciles d'animer à des endroits que plutôt qu'à d'autres. Par contre, ce qui ne fait pas la différence, en fait, et ce qui nous aide à déployer de manière massive, entre guillemets, enfin, en tout cas globale, c'est qu'on a une culture d'entreprise basée sur un ADN très très fort avec quatre valeurs, par contre, pour le coup, sur lesquelles on recrute et un sens commun autour des valeurs sportives. Puisque en fait, d'ailleurs, on nous le dit souvent, mais est-ce qu'il faut savoir faire du sport pour rentrer à Décathlon? Ce n'est pas forcément la notion de faire du sport, c'est aimer le sport, puisque notre mission, c'est de rendre accessible le sport. Donc, si on n'aime pas, forcément, tu parlais de plaisir, on ne va pas prendre plaisir à développer un produit, on ne va pas être en plaisir voilà, dans son job. Et comme on se base sur le recrutement, sur des savoir-être, le sens du service, la responsabilité, je sais plus, la vitalité, enfin voilà. Et ben du coup forcément, on a plutôt des profils qui sont matures pour ce genre
Ah oui.
d'évaluation de savoir-être ou d'évolution de développement de ces savoir-être et qui ont envie de développer ces savoir-être. Notamment la notion d'apprendre, l'envie d'apprendre, l'envie de voilà de où là bah forcément c'est aidant.
Et oui, ce qui explique que tout le monde veut faire du co-développement, du coup. Il n'y a pas de problème pour trouver des candidats si vous les recrutez sur la base de la curiosité et l'envie d'apprendre. Alors, Vera, moi, je vois toujours pas de questions, mais tu
Il y
peux
a une
poser ta question.
question,
Ça va être.
oui. Il y a une question concernant justement la notion, bah, quid des managers dans tout ça? Est-ce que le manager est finalement utile? Est-ce qu'il n'y a pas une mise en péril? Est-ce qu'il y a des choses à dire pour rassurer, pour justement faire ce lien entre le formatage, l'encodage qui est bah, le soi fort? Voilà, et voilà. Quelle est votre expérience à toutes les deux?
Je vais commencer, Brigitte.
Vas-y, t'as
Voilà.
l'expérience.
Alors, en fait, nous, on a commencé le co-développement par des groupes mixtes de métiers différents. Et donc, il y avait des niveaux hiérarchiques différents, pas plus de deux niveaux différents, par contre. Mais il y avait des niveaux hiérarchiques différents et c'était OK là-dessus. Par contre, pas de lien hiérarchique direct. Donc, en fait, on n'a pas fait du co-développement dans les équipes. Donc, finalement, on a commencé par, et c'est volontaire, hein, bien évidemment. Donc, quand Béatrice, tu disais, bah, tout le monde veut faire du codev, ce n'est pas vrai. Hein. On est vraiment encore, voilà, soyons aussi voilà, dans l'humilité, ce n'est pas vrai. Tout le monde ne veut pas faire du codev et tout le monde n'a pas encore compris ou cette capacité, en fait, hein, à se livrer ou à demander de l'aide. Par contre, ceux qui sont venus en premier, ils étaient volontaires. Et du coup, bah, eux, forcément, les leaders, les managers qui ont été dans ces groupes-là, et d'ailleurs, en tant qu'animatrice, en fait, j'ai un exemple en tête, un manager qui est devenu maintenant un leader de process, en fait, voilà, qui a des grosses responsabilités 4 ans après, et forcément, ça change complètement la donne. Il anime son équipe de manière complètement différente. Donc, voilà, et là, au fur et à mesure, bah, on commence à voir des groupes entre pairs. Où là, bah, on décide est-ce que le manager vient ou pas pour pas qu'il soit mis en danger ou même mis en porte-à-faux, mais c'est une discussion du coup. Mais on a commencé par des groupes mixtes. Voilà.
OK. Ah, il y a une première question dans le chat. Sinon, Brigitte, je te laisse la parole
non, je crois que
un moment. Et puis.
T'as dit de manière très concrète, ça demande de toute façon de réinventer le rôle, la relation qu'on a à son équipe, aux autres, sa fonction même. Et c'est la même chose, nous on est aussi beaucoup sur les formateurs, c'est exactement la même chose. Le formateur va devenir un facilitateur, le manager devient un facilitateur, donc c'est une autre façon d'exercer son métier.
Ok, alors la première question, moi je la vois comme une question peut-être un peu ironique, mais en tout cas elle est là. Merci Georges. La question c'est dans quel type de poste un savoir-être peut ne pas être utile? Et donc c'est une question très difficile. Moi, en tout cas, je ne sais pas répondre.
Alors, je me permets parce que je pense que du coup, c'était par rapport à ce que j'ai dit.
Oui.
Alors, c'est intéressant parce que du coup, justement, je me suis remis un petit peu dans le projet des nouveaux savoir-être. Et en fait, ce qui est, voilà, je ne vais pas vous montrer le slide, mais il y a un élément en tout cas dans le projet sur lequel on confirme qu'on a tous besoin de tous les savoir-être. Et par contre, en fait, sur certains, plus on va prendre de responsabilités, plus il va y avoir d'impact. Si on les a ou pas, en fait, ou si on les développe ou pas. Et les freins qu'on va pouvoir mettre aux autres, en fait, finalement. Et donc, du coup, voilà, pour répondre à la question, moi, je serais plutôt dans ce sens-là. Et puis après, un autre axe, en fait, c'est plutôt lequel j'ai besoin de développer. Voilà, pour continuer
plus spécifiquement,
à prendre du plaisir.
Tu veux dire, hein,
voilà, et donc du coup, c'est plutôt faire des choix et des partis pris. Soit je fais le parti pris de développer justement quelque chose dont j'ai déjà une aptitude naturelle, soit je vais aller développer quelque chose qui me freine et qui du coup m'empêche d'avoir ce plaisir dans le travail, en fait. Voilà, donc. Mais merci pour la question parce que du coup, ça permet quand même de requalifier.
Bon, ben peut-être qu'il y en a encore une qui peut arriver. Il est 41.
Alors, on a oui, moi, j'ai une question aussi parce que du coup, là, on est dans l'entreprise, mais quid, et là, je fais un clin d'œil à Brigitte parce que tu nous avais partagé ça, sur un peu l'évolution plus sociologique que peut permettre le CODEF parce qu'il y a l'entreprise, mais pas que, je crois.
Alors, vraiment pas que, oui, je crois que on reparle à nouveau de l'éducation des enfants. Et,
ouais.
et c'est vrai qu'on est souvent très, très désarmés de voir qu'il n'y a rien là-dessus, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'évaluation justement sur ces compétences-là, alors qu'elles sont essentielles. Et puis, je crois qu'aussi, on est dans un monde, on pourrait peut-être aussi évoquer le monde en changement dans lequel on est, des changements qui vont s'accélérer, qui vont nous amener des tsunamis d'émotions. Et je crois que travailler sur ses propres émotions, sur ses besoins, la manière de les exprimer, c'est indispensable, essentiel. Mmh. Et puis, dans ce monde en transformation, donc je vois le monde de l'éducation, mais dans ce monde en transformation, il y a des acteurs qui sont majeurs aussi, qui sont par exemple les associations. Et on voit aussi dans ce monde associatif un déficit énorme. Pourtant, c'est là, normalement, cette capacité à collaborer. Nous, on le constate aussi. Il y a beaucoup de difficultés aussi. Et je pense que là-dessus, il y a vraiment besoin d'aider les gens.
Il y a une dernière question, Nathalie, pour toi. Pardon, tu es sur la dernière question du chat. Ouais.
Alors, juste, quand il y avait au niveau sociologique, il y avait aussi la notion de santé, parce qu'on voit qu'il y a des groupes de parole maintenant qui commencent à se mettre en place aussi dans le milieu de la santé. Puis même dans les familles, d'ailleurs. On y avait même le CODEV, on a eu un webinaire là-dessus sur... Monsieur, Madame, tout le monde, hein, pour justement rejoindre ce que tu disais, une transformation qui est bien plus profonde. Allez, la dernière question.
On a le temps de prendre la dernière question.
Pour répondre à Nathalie, parce qu'en même temps, on ne peut pas.
On va juste répéter sa question si les gens n'ont pas vu Brigitte.
À Nathalie, sur le monde de l'éducation nationale, il y a des très belles expériences qui sont faites en CODEV, justement, et qui marchent super bien. Donc, il y a des gens qui font des choses merveilleuses. Il ne faut pas dire que, il ne faut pas tout mettre. Il y a des gens qui. Et ça marche, voilà, ça marche avec des mondes qui sont. Tout petit dans des structures, dans des lycées ou dans des collèges de zones difficiles. Donc voilà, ça marche.
Chose qui existe déjà.
Ok. Bon, ben super. Alors, il y avait une dernière question. On va voir si on peut y répondre en une minute. Sinon, en quoi l'évaluation du développement? Ah ben là, alors, il y a un petit débat qui s'instaure, mais je vais reprendre ma question. Je pose celle de façon spécifique pour le codev. Ben oui, en fait, Colette nous amène la conclusion sur un plateau. C'est que finalement, c'est difficile d'évaluer les soft skills que en codéveloppement, dans la mesure où souvent les entreprises font beaucoup d'actions, hein. Peut-être que Peggy, tu peux nous dire aussi toutes les autres actions. En fait, ça n'aurait pas de sens de mesurer action par action, peut-être pour vous.
Oui, alors du coup, en effet, il y a plusieurs moyens, hein, notamment le feedback dont parler. On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais c'est un élément majeur, en fait, hein, la capacité d'accepter et la capacité de donner des feedbacks. Et donc, dans la mesure, nous, on mesure en effet plus globalement. Par contre, pour le codev, on commence à essayer d'évaluer alors la mise en action, parce qu'elle est importante à Decathlon, mais aussi cette notion d'authenticité. Voilà, qui pour le coup a un côté beaucoup plus cœur et qui du coup nous tient à cœur dans le projet Codev, dans le déploiement du co-développement à Decathlon.
Merci, merci bien.
Merci.
D'ailleurs, maintenant, juste,
Alors,
on parle de
Véran.
feed forward, hein, je crois, hein, Brigitte, et pas de feedback. En tout cas, c'est l'heure. C'est l'heure, donc je vais arrêter l'enregistrement et puis surtout remercier vraiment, vraiment très, très chaleureusement Béatrice et moi, ravie, ravie de ce temps ensemble. Rappelez que nous nous retrouverons le 25 novembre pour un petit peu une rétrospective de tout ce qui s'est passé, parce qu'on a eu le monde du sport, on a eu l'entreprise, on a eu l'évaluation, avec un cadeau de fin d'année. Donc retenez vos dates, c'est 25 novembre. Excellente soirée à tous. Demain, tout le monde recevra le lien de réécoute. Et puis, peut-être le mot de la fin toutes les deux, Peggy et Brigitte, un mot chacune, et puis j'arrête l'enregistrement après. Et puis Béa.
Moi, j'ai vu dans le chat, il y a encore du pain sur la planche. On a encore, je crois que c'est ça. Voilà, et on a des choses merveilleuses à faire. Voilà.
Ah, c'est clair qu'on a une belle marge de progression, voilà, si on va sur l'évaluation.
Ouais, ok, merci. Oui, et moi, ce que j'ai envie de partager, c'est expérimentons. On parle des familles. Moi, je vais démarrer quelque chose pour les couples, voir ce que ça peut donner, sans que ce soit thérapeutique, évidemment, mais en co-développement. Et je crois que Claude, qui est là, peut témoigner de ça aussi, hein. Ouvrons, expérimentons, cherchons ensemble, en tant que praticien-chercheur, hein, à l'école, dans les lycées, enfin, partout où vous avez une toute petite brèche, allez-y, quoi. Voilà.
J'arrête l'enregistrement et puis c'est la fin officielle de ce webinaire. Nous, on reste quelques minutes de plus. Vous pouvez rouvrir vos...